Après, vous écoutez France Culture, il est 12h30. Et le journal vous est présenté par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Accord trouvé cette nuit sur le régime d'assurance chômage des intermittents. Précision dans un instant avec Bastien Dessenac. Réaction d'Aurélie Filippetti qui sera en ligne avec nous. Pour la quatrième fois en moins de deux mois, sept syndicats appellent à manifester en France pour réclamer le retrait de la loi travail qui va être débattue à partir de mardi prochain à l'Assemblée. C'est un dossier suivi par Kevin Blondel. La dette grecque à nouveau en question. Alexis Tsipras lance un appel aux instances de l'Union européenne pour débloquer des négociations avec les créanciers de son pays. On sera en ligne avec Angélique Kourounis. Donald Trump, le favori des primaires américaines, dévoile son programme de politique étrangère qui se résume en quelques mots. L'Amérique avant toute chose, c'est ce qu'il a dit hier soir à Washington. Analyse de Nadine Epstein, commentaire de l'historien François Durpère. Une enquête de l'Institut National du Cancer. Le risque de développer la maladie au cours de la vie diminue. La mortalité par cancer poursuit par ailleurs une tendance à la baisse en France. Présentation de ces chiffres avec Antoine Marais. Dans la dernière partie de la Grande Table, notre invité sera Scott Atran, anthropologue, spécialiste du terrorisme, auteur de « L'État islamique est une révolution » aux éditions Les Liens qui libèrent. Un accord a donc été trouvé la nuit dernière sur le régime d'assurance chômage spécifique aux intermittents. Accord entre les organisations de salariés et d'employeurs du spectacle. Au terme de 10 heures de négociations, le secrétaire général de la CGT Spectacle annonçait donc qu'un accord était mis à la signature et qu'il comporterait des avancées importantes parmi les principales. Cet accord, l'ouverture des droits à l'indemnisation aussi bien pour les artistes que pour les techniciens à partir de 507 heures travaillées sur 12 mois. Bonjour Bastien Dessenac.
Bonjour.
Qu'y a-t-il donc précisément dans cet accord ?
Alors donc vous l'avez dit, le premier point c'est donc cette indemnisation pour les artistes et les techniciens à partir de 507 heures travaillées, avec aussi également un calcul des droits à une date anniversaire et non plus sur 10 mois glissants comme c'est le cas actuellement. C'est en fait un retour à l'ancien système que les intermittents réclamaient depuis l'instauration du modèle actuel en 2003. Le texte prévoit aussi de neutraliser la baisse des indemnisations en cas de congé maternité, un cachet unique à 12 heures, et puis concernant les heures d'enseignement, le plafond de 55 heures est relevé. Elles concernent plus de types d'enseignement et surtout les techniciens pourront les comptabiliser dans leurs heures travaillées. Une concession quand même, l'abaissement du plafond du cumul entre les allocations et les indemnités. Et puis de leur côté, les employeurs concèdent eux une augmentation de leur cotisation de 1% et la fin des abattements pour frais professionnels.
Alors la question évidemment de savoir maintenant quel est l'avenir prévisible de cet accord, comment se présente sa validation par les syndicats ?
Eh bien, pour le moment, la CGT Spectacle a annoncé ce matin dans un communiqué qu'elle signerait l'accord, mais comme il s'agit d'un accord de branche, il faut encore que le texte soit validé au niveau interprofessionnel par l'UNEDIC. Or, l'accord ne respecte pas la lettre de cadrage financier proposée par le MEDEF, la CFDT, la CFTC et la CFE-CGC il y a un mois. Une lettre qui demande 105 millions d'euros d'économies par an sur 4 ans, avec une compensation de l'État à hauteur de 80 millions d'euros. Ce matin, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, a demandé au MEDEF de signer l'accord. Le député socialiste Jean-Patrick Gilles, médiateur lors du conflit avec les intermittents en 2014, a lui aussi demandé à l'UNEDIC de signer le texte. Et si blocage il y a, eh bien le dossier pourrait être repris par l'État, ce que les intermittents ne souhaitent pas, car on pourrait alors se diriger vers la création d'une caisse autonome.
Bastien Dessenac, merci. On est en ligne avec Aurélie Filippetti, députée de Moselle. Bonjour.
Bonjour.
Ancienne ministre de la Culture. Alors, est-ce que c'est un bon accord, selon vous ? La CGT a l'air satisfaite ?
Oui, c'est un bon accord, parce que effectivement, il correspond à des efforts faits de la part des professionnels du spectacle, aussi bien du côté employeur que du côté des bénéficiaires des droits, des allocataires. Mais en même temps, il permet de préserver et de développer l'emploi dans les domaines culturels, et il permet de pérenniser un système qui permet à la culture en France d'être un des secteurs les plus dynamiques. Donc c'est un bon accord qui va aussi permettre de régler un certain nombre de problèmes, je pense notamment aux femmes. Après un congé maternité, jusqu'à présent, les femmes intermittentes étaient extrêmement défavorisées par rapport aux hommes dans la prise en compte justement des heures travaillées. Eh bien, cette injustice est réparée grâce à cet accord. Et maintenant, il faut dire une chose, c'est qu'il faut que cet accord, qui est aujourd'hui au niveau des professionnels, salariés et employeurs du spectacle, il faut qu'ils soient validés par la convention UNEDIC globale, générale, et évidemment, il faut qu'ils soient validés tels quels.
Le Premier ministre dit que l'État va participer à hauteur de 90 millions à ce fameux fonds de soutien aux intermittents. On a l'impression que du côté de l'État, en tout cas, il y a quelque chose qui s'est débloqué aussi, parce que c'est un conflit dont on parle depuis longtemps, et on a l'impression que cette nuit, ben, finalement, la chose s'est réglée, comme un peu par miracle. Comment vous expliquez que cet accord ait pu être trouvé comme ça ?
La chose s'est réglée parce que, en fait, on a changé le périmètre de la négociation. Et c'était quelque chose que moi, j'avais demandé... Depuis longtemps, lorsque j'étais au ministère de la Culture, c'est-à-dire que là, ceux qui ont signé l'accord et qui ont trouvé ce bon équilibre, ce sont les gens qui connaissent le secteur, c'est-à-dire ce sont les professionnels des secteurs de la culture et de la communication. Et donc, eux, ils savent où ils peuvent faire des efforts et où ils ne peuvent pas en faire. Donc, ils ont trouvé ainsi un juste équilibre très responsable entre des employeurs qui vont accepter, par exemple, une hausse de leur cotisation de 1% et des salariés qui vont aussi accepter un plafonnement renforcé du montant cumulé des indemnités avec leur revenu d'activité. Donc il y a des efforts qui sont trouvés et en même temps il y a une pérennisation, vous l'avez dit, 507 heures sur 12 mois, la date anniversaire, des choses qui étaient réclamées depuis longtemps par les intermittents. Donc c'est un juste équilibre. Mais jusqu'à présent, on n'y arrivait pas. Pourquoi ? Parce que la négociation, elle ne se faisait pas au niveau des professionnels des secteurs de la culture, mais elle se faisait au niveau de l'UNEDIC en général. Et évidemment, du point de vue général de l'UNEDIC, eh bien, la question des intermittents, c'est un tout petit sujet. Ce sont 250 000 personnes dont la moitié seulement sont indemnisées, donc c'est très, très minoritaire. Donc on voit bien que la clé, c'était de changer le périmètre de la négociation. Mais encore une fois, cet accord ne sera pleinement valable que s'il est validé dans le cadre de l'accord UNEDIC général qui est aujourd'hui en discussion, et il ne faut pas que le MEDEF cède à la tentation de vouloir encore une fois faire de l'intermittence la variable d'ajustement de ces accords UNEDIC.
Voilà, Claire. Merci beaucoup Aurélie Filippetti. Vous restez avec nous pour la suite de cette édition.
C'est la quatrième journée de mobilisation contre la loi El Khomri. 7 syndicats de salariés et d'étudiants donnent à nouveau rendez-vous dans la rue ce jeudi pour réclamer le retrait du projet de loi de travail.
Et oui, après 2 mois de contestation, c'est évidemment un test pour mesurer la détermination des opposants. Gagner le retrait du projet de loi travail, c'est possible, affirmait ce matin l'intersyndicale qui appelle donc à renforcer les mobilisations. Nous sommes à quelques jours du début du débat parlementaire qui est fixé à mardi prochain 3 mai. Après 2 mois de contestation, donc c'est un test. Le numéro 1 de Force ouvrière, Jean-Claude Mailly, estimait ce matin sur France Inter qu'il n'y avait pas d'essoufflement.
Ça mobilise dans les troupes de FO, la CGT me dit la même chose. Ça ne s'essouffle pas parce qu'il y a de vrais problèmes sur cette loi, notamment un problème clé qui conditionne beaucoup d'autres choses. C'est ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes. Si demain on donne la priorité à l'entreprise à la place de la branche, on va accroître les inégalités et la précarité.
Donnez-nous un exemple concret parce que c'est assez abstrait.
Ça veut dire quoi par exemple ? Ça veut dire aujourd'hui, vous pouvez cadrer au niveau national, mettons dans la métallurgie, vous cadrez au niveau national le paiement des heures supplémentaires en disant c'est 25%. Et si l'accord est étendu, toutes les entreprises de la métallurgie doivent appliquer les 25% de majoration. Demain, on supprime la branche à ce niveau-là. Mmh. On passe directement dans l'entreprise. Ça veut dire que vous allez avoir une entreprise qui sera payée à 10, une à 12, une à 15, une à 20. Et là où il y aura un problème, il y aura une pression sur les salariés pour qu'ils acceptent que les heures sup soient moins bien payées.
Jean-Claude Mailly, donc sur France Info ce matin. Alors évidemment, nous sommes dans un mouvement qui dure. Ça fait 2 mois, je le disais. C'est un test pour mesurer aujourd'hui la détermination des opposants. Comment ça se présente, Kevin Blondel ?
Effectivement, c'est un test parce que le contexte a changé depuis la dernière journée de mobilisation. William Martinet, le président de l'UNEF, principal syndicat étudiant, le reconnaît. Il sera peut-être plus compliqué de mobiliser les jeunes pour 3 raisons. D'abord, parce que le gouvernement a fait un pas vers eux avec ce plan de 500 millions d'euros qui doit favoriser leur accès à un premier emploi. Ça ne concerne pas la loi travail, mais c'est une première victoire qui pourrait en contenter certains. Ensuite, parce que la zone C, celle de Paris, Toulouse ou encore Montpellier, est en vacances. Les lycéens ne sont pas en cours, les étudiants ne sont pas à la fac, ce qui veut dire pas de lycée bloqué et surtout pas d'AG pour fédérer les troupes. Et puis, parce que ces étudiants, justement, ils sont en pleine préparation de leurs examens qui auront lieu la semaine prochaine pour certains. Malgré tout cela, beaucoup d'étudiants restent tout de même mobilisés et puis il faut rappeler qu'ils ne sont pas les seuls attendus dans la rue aujourd'hui. aujourd'hui. C'est ce qui rassure leur syndicat. Les militants de Nuit Debout devraient se joindre au cortège dans plusieurs grandes villes de France, comme Paris ou Toulouse, avant d'inviter les manifestants à les suivre respectivement Place de la République et Place du Capitole pour se joindre à leur propre mouvement, leur 59 mars aujourd'hui. Les intermittents aussi seront de la partie. Malgré l'accord trouvé la nuit dernière, ils sont particulièrement mobilisés. Et puis les syndicats en sont sûrs, comme Jean-Claude Mailly l'a dit, ce texte continue à mobiliser les Français de tous les corps de métier contre lui.
Kevin Blondel, merci beaucoup. Un tout petit mot encore, Aurélie Filippetti, sur ce texte donc, qui va passer à l'Assemblée mardi prochain. Comment ça se présente? Est-ce que vous êtes pour aujourd'hui, tel qu'il est?
Écoutez, moi, je fais partie des députés qui ont déposé un certain nombre d'amendements pour changer à la fois l'esprit de ce texte et notamment la hiérarchie des normes. Donc, ce texte qui fait prévaloir finalement des négociations d'entreprise sur l'accord de branche, ce qui équivaut à quoi? Ben, on fait des discussions de branche pour éviter que les entreprises dans un même secteur se fassent concurrence les unes aux autres sur les conditions de travail des salariés. Et là, le risque, c'est bien effectivement que certains salariés, sous la pression de la perte de leur emploi, eh bien, acceptent des concessions sur leurs conditions de travail.
Donc,
ou
donc tel quel, vous ne votez pas le texte, tel quel?
En l'état, on ne le vote pas, notamment parce que, par exemple, dans la définition du licenciement économique, là, c'est quasiment, pour moi, un permis de délocaliser qu'on offre à des grandes entreprises multinationales qui pourront ainsi faire prévaloir leurs chiffres uniquement en France sur l'ensemble de leur bilan, du bilan de l'entreprise à l'international, et donc ainsi licencier sous motif de licenciement économique des salariés français. Donc on voit, c'est un permis aujourd'hui de délocaliser. Donc en l'état, le texte n'est pas satisfaisant.
Aurélie Filippetti, merci beaucoup d'avoir accepté d'être en ligne avec nous.
Où l'on reparle de la dette grecque, Alexis Tsipras en a appelé hier aux instances politiques de l'Union européenne pour débloquer les négociations avec les créanciers de son pays.
Et surtout, avec le FMI, le Premier ministre grec demande la convocation d'un sommet des pays de la zone euro. Si rien n'avance au niveau ministériel, c'est un appel au président du Conseil européen Donald Tusk qui intervient après le report sine die d'une réunion extraordinaire des ministres des finances de la zone euro qui était prévue initialement précisément sur le sujet aujourd'hui même. Angélique Kouronis, bonjour. Est-ce que le problème reste entier selon vous ou est-ce que ce sont les habituelles tensions qui précèdent toujours un accord?
C'est un peu les deux. C'est la même pression si l'on prend en compte qu'avant chaque négociation, chaque partie fait monter la mayonnaise, mais c'est une pression très spécifique si l'on prend en compte les déclarations de la porte-parole du gouvernement qui accuse le FMI, je cite, de miner délibérément les négociations. En fait, c'est l'histoire du serpent qui se mord la queue. Les créanciers européens veulent la participation du FMI à ces négociations, un FMI qui, lui, veut une réduction de la dette grecque afin qu'elle soit supportable, réduction dont les partenaires européens, Allemagne en tête, ne veulent pas entendre parler, bien que promise lors du précédent accord signé en juillet dernier. Les Grecs, eux, de leur côté, veulent réduire la dette, c'est même leur priorité, mais ils ne veulent pas entendre parler des nouvelles mesures d'austérité comme l'exige le FMI. Athènes estime qu'elle ne peut plus réduire les retraites déjà réduites 12 fois, que la suppression pure et simple des retraites complémentaires pour lesquelles les gens ont cotisé des années est déjà une pilule assez difficile à faire passer. Le PIB a chuté de 27% ces 5 dernières années. Il faut maintenant faire de vraies réformes et pas continuer le détricotage de l'état social, la santé, l'éducation, sans parler des baisses dans les salaires, tant dans le public que le privé. Athènes a réalisé des économies de 2,8 milliards d'euros et s'est engagé à adopter des mesures pour 2,6 milliards d'euros d'ici 2018. Bruxelles a loué Athènes pour avoir réussi même à dégager un excédent primaire budgétaire de 0,7% contre 0,25% de prévu. Mais, il y a toujours ce mais, les Européens, pour convaincre le FMI de participer au plan d'aide grecque, sont convenus, eux, d'un nouveau tour de vis qui serait imposé à Athènes. Et là, Alexis Tsipras a refusé, et c'est tout le problème. Il propose d'autres mesures qui ne sont pas encore acceptées par les créanciers.
Merci beaucoup, Angélique Kouronis, en direct d'Athènes.
America First. Dans un discours à Washington, le favori des primaires républicaines dévoile son programme de politique étrangère et déclare, je cite, « L'Amérique d'abord sera le thème majeur de mon administration ».
Et oui, ma politique étrangère placera toujours les intérêts des Américains et la sécurité des Américains avant toute chose, déclare Donald Trump, qui entend apparemment revoir revoir Nadine Epstein, la politique étrangère américaine, dans une direction moins interventionniste.
Un diplomate américain a résumé cette intervention de Trump en la qualifiant de discours décousu, tant le milliardaire républicain a dit tout et son contraire, maniant comme à son habitude, slogan et phrase-choc, tout cela relevant davantage du show que de la réflexion diplomatique. Ainsi, son Amérique d'abord, programme conservateur, qui promeut un protectionnisme, une défense maximale des intérêts nationaux et une intervention minimale dans les affaires du monde, accumule les contradictions. D'un côté, Trump déclare qu'il n'hésitera pas à recourir à la force militaire s'il n'y a pas d'alternative, mais si l'Amérique se bat, c'est pour gagner, et d'ajouter, les pays alliés pourront compter sur l'Amérique, nos amis et nos ennemis doivent savoir que si je trace une ligne rouge, elle sera respectée par la force. Et quelques phrases plus loin, le candidat républicain estime, nous avons dépensé des milliers de milliards de dollars en avions, missiles, navires, équipements, nous avons investi dans notre armée pour défendre l'Europe et l'Asie, les pays que nous défendons doivent payer pour le coût de leur défense, sinon les États-Unis les laisseront se défendre eux-mêmes. Grandeur, fierté et respect de l'Amérique dans le monde, promet Trump qui annonce en toute modestie que s'il est élu président, il débarrassera la terre du groupe État islamique. Autre parole donnée du milliardaire, le budget américain de la défense sera augmenté. Même si pour cette allocution, Donald Trump a eu recours à un prompteur, rompant ainsi avec son improvisation, son discours semble avoir été écrit dans la hâte.
Nadine Epstein, merci beaucoup. On est en ligne avec l'historien François Durper pour en parler. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez bien étudié ce texte. Est-ce que vous pouvez nous dire donc quelles sont les principales lignes qui s'en dégagent ?
Oui, alors pour faire simple, la confusion, la contradiction que Nadine Epstein vient de souligner, elle tourne autour de finalement du fait que Trump confond deux choses. Il confond America Great Again, c'est-à-dire l'Amérique grande à nouveau, c'est son slogan, et America First. America First, c'était en fait le terme qui désignait l'isolationnisme américain dans les années 1930-1940. C'est exactement l'inverse. America First, ça veut dire l'Amérique d'abord, ça veut dire que à chaque fois que se pose un problème dans le monde, on n'intervient que si l'Amérique est directement en question et les intérêts de l'Amérique. C'est donc une tradition isolationniste. Et America Great Again, ça veut dire vous allez voir ce que vous allez voir, on va revenir partout. Barack Obama, c'était du weak leadership, c'était du leadership faible. Et donc, cette contradiction qui est au centre du discours de Donald Trump et qui vient finalement d'une confusion historique ou d'une méconnaissance de ce qu'est America First, eh bien, ça entraîne toutes les autres contradictions.
Mais qu'est-ce qu'il pense au fond, alors, finalement, entre les deux, à votre avis?
Écoutez, ça je sais pas. Ça serait plutôt un psychologue qu'un spécialiste de politique étrangère qu'il faudrait interroger.
Peut-être qu'il joue sur les deux tableaux, justement.
Oui, mais
c'est pas consciemment, c'est ça le problème.
Si vous voulez, à la fois, il a été hostile à la guerre en Irak en 2003. Donc on peut dire que dans l'histoire de Donald Trump, dans son histoire politique, il n'est pas en contradiction avec un certain isolationnisme. Mais en même temps, pendant toute la campagne, il répète qu'Obama est faible, qu'il faut intervenir de plus en plus. Regardez par exemple, rien que la question du budget, de l'argent. Il dit on n'a plus d'argent, les alliés vont devoir se défendre tout seuls. Ils vont devoir payer pour la sécurité. Et puis en même temps, il annonce une augmentation du budget militaire. Donc rien que sur ce thème-là, qui est extrêmement concret, c'est très difficile de le suivre. Il dit d'un côté « diplomacy first », il fait un éloge de la prudence, un éloge de la retenue, vous avez entendu ce thème, et puis juste après, il explique eh bien, qu'il faut être beaucoup plus fort, beaucoup plus dur avec ses ennemis. Donc c'est extrêmement difficile à suivre, et je pense que quelqu'un a entendu avec beaucoup d'attention ce discours, c'est Hillary Clinton, parce qu'elle a été secrétaire d'État, et elle doit se dire, le débat télévisé avec Donald Trump, ça va être du petit lait.
François Durper, merci beaucoup d'avoir accepté d'être en ligne avec nous pour commenter ce discours de Donald Trump. On peut retrouver sur France Culture un dossier de Camille Renard, franceculture.fr, consacré à l'intervention militaire des États-Unis dans le monde, comme enjeu précisément de cette campagne présidentielle. Analyse graphique de cartes interactives, notamment sur les 587 principales bases militaires américaines à l'étranger. Comment donc vaincre l'État islamique? Question qui se pose pour tous les pays de la coalition internationale en lutte contre Daesh. Et il y a précisément un colloque qui se tient en ce moment à l'école militaire sur la question de savoir comment on pourrait prévenir la radicalisation des jeunes occidentaux. Florence Turme, vous êtes sur place, comment se présente la question ?
Tous les pays n'ont pas la même antériorité dans l'action engagée contre la radicalisation islamiste, mais les quatre piliers développés par la Grande-Bretagne, poursuivre, prévenir, protéger et se préparer, semblent constituer un axe commun de travail pour les différents acteurs internationaux. En France, pourtant le pays parmi les plus touchés, la stratégie de prévention portée par le Comité interministériel de prévention de la délinquance est relativement récente. La mise en place du numéro vert date d'avril 2014. Le nombre de signalements recueillis en l'espace de 2 ans et en constante augmentation se monte à 5 000, auxquels il faut ajouter tous ceux qui émanent des services de renseignement pour aboutir au chiffre de 13 000 personnes susceptibles d'avoir des liens avec la mouvance djihadiste ou tout simplement des velléités de départ. Il n'existe pas de demande de radicalisation, analyse le psychanalyste Fethi Ben Slama. C'est l'offre qui crée la demande et la fonction d'Internet a rapproché l'offre de son public. Elle attend comme un chasseur attend sa proie. Alors, comment développer un contre-discours ? C'est effectivement l'un des grands enjeux actuels sur lequel les États-Unis ou la Grande-Bretagne ont une longueur d'avance sur nous. Internet représente une drôle de démocratie, souligne le sociologue Gérald Bronner. Certains votent 1 000 fois et ce sont les plus impliqués, d'autres jamais. Difficile de contre-argumenter, difficile de saturer l'espace digital, difficile aussi de s'adapter à des profils protéiformes de l'adolescente romantique qui rêve d'humanitaire aux militants prêts à mourir au combat. Désormais, en plus des clips vidéo, le site français Stop Djihadisme dispose de comptes Twitter et Facebook qui diffusent à la fois des messages valorisant l'action de l'État français sur les terrains de conflit, mais aussi d'autres en arabe, porteurs de valeurs de l'islam.
Florence Turme, merci. Bonjour Scott Attran. Vous êtes donc l'invité de la dernière partie de la Grande Table, spécialiste de ces questions. Vous écrivez un livre donc dans lequel qui s'intitule « L'État islamique est une révolution ». On va en parler longuement. Mais d'abord, on a l'impression qu'aujourd'hui le discours en Occident, c'est de dire « Daesh recule d'abord » et ensuite les recrues se tarissent. C'est ce qu'on a entendu d'un général américain. Et vous allez un petit peu à l'encontre de cette thèse en général ?
Moi, je pense que la coalition a réussi, surtout avec les attaques aériennes, à le contenir en Irak et en Syrie. Et le recrutement, au moins dans certains milieux, a baissé de façon sensible. Mais l'expansion de l'État islamique continue partout dans le monde. Par exemple, juste il y a quelques jours, j'ai des chercheurs dans le sud du Maroc qui me disent maintenant qu'ils sont en train de peut-être s'accaparer, de s'emparer du Polisario, de ces soldats qui luttaient pendant 40 ans contre l'État marocain. Et en Libye, en Tunisie, en Asie centrale, en Malaisie, en Indonésie. Donc c'est un archipel. Et tant on réussit, comme je l'ai dit, à le contenir un peu en Irak et Syrie, mais ça, l'archipel sème et sèmera ailleurs.
Voilà, on en reparle longuement donc tout à l'heure dans quelques minutes dans la dernière partie de la Grande Table.
Et on termine avec cette étude de l'Institut National du Cancer. Le risque de développer un cancer au cours de la vie diminue et sa mortalité, la mortalité par cancer poursuit une tendance à la baisse en France.
Bonne tendance donc, qui sont globalement liées selon l'Institut au diagnostic précoce, au dépistage inclus, à l'amélioration de l'efficacité des traitements. Antoine Marais.
Il y a donc deux tendances lourdes. La première, c'est donc que le nombre de cancers baisse. Autrement dit, vous avez moins de chances d'être atteint par un cancer au cours de votre vie. Cette tendance, on l'observe depuis 10 ans en France sur l'ensemble de la population, mais avec une nette différence entre les hommes et les femmes. L'incidence est en baisse de 1,3% par an chez les hommes, mais à l'inverse, elle progresse de 0,2% chez les femmes. À noter toutefois que cette progression ralentit. Cette évolution est en partie due au changement de mode de vie, et en particulier par rapport à la cigarette. Depuis les années 80, les hommes fument moins, les femmes un peu plus, et les cigarettes ont une forte incidence à long terme sur le cancer du poumon. L'autre bonne nouvelle, c'est que les cancers, qui sont moins nombreux, sont moins souvent mortels. Entre 1982 et 2012, le taux de mortalité a été de 1,5% par an chez les hommes et de 1% chez les femmes. L'efficacité des traitements s'améliore et les diagnostics précoces permettent une prise en charge rapide du patient avec de grandes chances de guérison. Le taux de survie dépasse désormais les 80% 5 ans après le diagnostic du cancer. Chez l'homme, c'est le cancer du poumon qui reste le plus meurtrier, presque 21 000 décès en 2015, loin devant le cancer colorectal et celui de la prostate. Chez la femme, c'est le cancer du sein qui reste en tête de mortalité par cancer, presque 12 000 décès devant le cancer du poumon et le cancer colorectal.
Antoine Marette, la météo, les averses régressent sur les frontières du nord, mais laissent place à de belles éclaircies, donc des nuages encore, quelques gouttes de pluie sur la Bretagne. Ailleurs, ce sera un soleil dominant, des températures de 9 à 21 degrés cet après-midi. Fin de cette édition réalisée avec Brice Garcia. Le prochain journal est à 18h avec Anne Fauquemberg.